La reprise des cours après les vacances, la situation n'est toujours pas revenue à la normale dans de nombreux établissements. À Tuban, le collège doit de nouveau accueillir les élèves demain. Réouverture de la vente d'alcool aujourd'hui sous conditions. Il y avait des files d'attente devant les bottle shops et les caves à vin. Dans ce journal, vous retrouverez également la chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Noir. Un plus grand nombre de places, une plus grande amplitude horaire, des rotations supplémentaires vers le monde hors sud sont mises en place à partir d'aujourd'hui par la province sud et par l'État. Et puis l'actualité en métropole avec la mort d'une icône du cinéma. Plus de 90 films qui auront pour la plupart marqué l'histoire du 7e art. Alain Delon s'est éteint à l'âge de 88 ans. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal qui sera suivi par le magazine des sports du lundi pour revenir sur les principaux résultats du week-end. Bonjour Léo Fichou.
Bonjour.
Et on parlera notamment de Ligue 1. C'était en effet la reprise du championnat de France de foot ce week-end.
Eh oui, et déjà un festival de buts, 23 au total. Le PSG, champion de France en titre, l'OM et Rennes déroulent. En revanche, Nice et Lyon déçoivent. On fera le point sur cette première journée de Ligue 1 dans ce journal.
On verra aussi tout ce qui fait l'actualité sportive sur la scène nationale et internationale. Et puis on parlera football aussi, mais cette fois-ci sur le territoire avec notre invité.
Notre invité, Gilles Tavergeux, le président de la Fédération calédonienne de football, reviendra notamment sur l'arrêt de la saison et des compétitions sur le territoire. On parlera également avec lui de la sélection A de Calédonie qui a démarré ce week-end sa préparation aux qualifications à la prochaine Coupe du Monde. Un match amical avait lieu ce week-end.
On se retrouve donc pour le magazine des sports du lundi de la fin de ce journal. On est loin du retour à la normale dans les établissements scolaires. Après 2 semaines de vacances, les cours reprennent. Rentrée scolaire qui reste marquée par les effets des émeutes. Cette nuit encore, 3 structures préfabriquées du lycée d'Ikukewe ont été incendiées. Malgré tout, les cours ont pu reprendre ce matin. Certains établissements vont pouvoir retrouver un rythme normal. C'est le cas du collège de Tuban qui est fermé depuis le 13 mai. Il a rouvert seulement une journée avant de fermer à nouveau car les conditions de sécurité n'étaient pas réunies. Cette fois-ci, le collège rouvre et cette première journée est consacrée aux professeurs et au personnel de l'établissement. Les élèves, eux, je vous le disais, ne seront accueillis que demain, Léana Colombo.
Oui, effectivement, cette journée sera donc mise à profit par les 40 professeurs et la trentaine de personnels pour tout mettre en place avant l'accueil des élèves, donc c'est-à-dire demain. David Bernouy, principal du collège de Tuban, constate une certaine effervescence de la part de tout le personnel de l'établissement.
On est très content de retrouver nos locaux avec les personnels. Donc, réunion de rentrée quasiment pour les personnels qui vont avoir l'occasion de se retrouver parce que depuis le 13 mai, ils n'avaient pas vraiment eu l'occasion de se voir pour travailler, se réapproprier les locaux, se rassurer aussi par rapport à l'environnement et préparer la rentrée pour nos élèves de demain. Les professeurs sont ravis de retrouver leur beau collège et là, de se retrouver, de discuter, de pouvoir prendre un peu de temps entre eux.
Cette reprise progressive est accompagnée de mesures exceptionnelles. Depuis plusieurs semaines, les forces de l'ordre sont présentes dans le quartier et resteront lors des premières semaines de la rentrée afin de sécuriser l'établissement. Une présence rassurante pour Christophe Ruedraogo, enseignant en histoire-géographie au collège de Tuban.
Nous préférerions être dans une situation où il n'y ait pas de forces de l'ordre, mais vu le contexte actuel, donc on a plutôt tendance à nous sécuriser et à sécuriser les parents aussi, et pour leur montrer qu'effectivement, tout est mis en ordre pour que le retour se fasse dans de bonnes conditions. Donc nous sommes plutôt satisfaits de voir les forces de l'ordre devant l'établissement. Tout a été fait pour que la rentrée se passe de manière sécurisée et confortable, donc on espère qu'effectivement la situation va perdurer. Bon, alors nos élèves, on ne les avait pas tout à fait perdus, mais ils étaient effectivement éclatés sur plusieurs établissements. Et là, nous avons vraiment hâte, donc demain, mardi, de les retrouver dans nos salles, avec notre matériel, et tout ce que l'on peut mettre en œuvre pour effectivement terminer l'année dans de meilleures conditions.
La mairie de Nouméa a également refait l'éclairage public et la SIC a fermé plusieurs appartements qui étaient occupés illégalement pour plus de sécurité. A noter que la vice-présidente du gouvernement, Isabelle Champmoreau, en charge notamment de l'enseignement, était présente ce matin lors de la rentrée des professeurs.
Et c'était la rentrée des élèves aussi ce matin au lycée du Mont-d'Or, Sarah Mégerie.
Effectivement, une reprise des cours qui a dû être adaptée pour bon nombre de lycéens alors que la commune est toujours touchée par la crise. C'est ce que nous explique Maxime Jandel, le proviseur du lycée du Mont-d'Or.
Pour cette rentrée au lycée du Mont-d'Or, on n'a plus augmenté l'amplitude horaire des cours. Donc les élèves reprennent les cours comme d'habitude à 7h10 le matin. Par contre, avec une fin des cours à 16h30, donc on finit une heure plus tôt que d'habitude pour permettre à chacun de gérer ses temps de transport. On rouvre normalement l'internat à partir de demain. Donc on offrira plus de services et plus de cours à l'ensemble de nos élèves, même si on sait que pour certains, ça reste très compliqué de venir, notamment ceux du Mont-d'Or Sud et tous ceux qui ne peuvent pas bénéficier du transport en commun. On a peut-être 10% de nos élèves avec qui on n'a pas de contact parce que c'est compliqué aussi. Ils sont retournés dans les îles ou autres ou dans le Nord. alors. Et donc là, effectivement, c'est un peu compliqué. Il y a des élèves qui ont du mal à venir. Il y a aussi certains qui ont du mal à revenir, soit par crainte, des parents qui ont un peu peur de remettre leur enfant à l'école, ou aussi parce que c'était déjà des élèves fragiles. Un contexte qui les a perturbés comme ça a pu les amener à décrocher. On a aussi des élèves qui sont restés sur Wallis et Futuna, par exemple, et on essaye de garder un lien avec eux et de leur envoyer aussi par Internet ou autre des possibilités de travailler en espérant qu'ils puissent revenir à un moment au lycée.
Des jeunes qui sont conscients des difficultés actuelles pour pouvoir étudier dans de bonnes conditions.
Avant, c'était plus simple vu qu'il y avait les transports en commun, comme le Taneo. On se réveillait moins bonheur le matin et puis on était sûr des horaires du car. Puis là, depuis qu'il y a eu les événements, on est obligé de se lever plus tôt. Du coup, on est plus fatigué en arrivant en cours. C'est plus difficile de suivre parce qu'on est fatigué. Du coup, la fatigue prend le dessus par rapport à l'école. On est plus sujet à dormir en cours pour rattraper les heures de sommeil qu'on manque.
J'ai envie d'avoir mon bac pour rendre fiers mes parents. Donc, je suis obligée de venir. Des fois, tu as peur que tu passes en navette. Il y a des personnes de Saint-Louis qui te tirent dessus. On ne sait jamais, vu qu'ils sont capables de caillasser et de tirer sur les voitures. Donc, ça fait peur un peu de passer en navette. Surtout que quand on passe, c'est un peu proche de Saint-Louis. Et une fois, je suis arrivée au lycée, j'entendais que des coups de feu.
C'est un peu dommage qu'on ne passe pas des épreuves parce que notre génération, 2006 et 2007, on n'a pas pu passer les épreuves, le brevet à cause du Covid. Je ne sais pas si ça va peut-être compliquer nos études supérieures.
Les équipes pédagogiques aussi doivent travailler dans ces conditions difficiles. Alain Narcisseau, professeur de physique chimie et habitant du Vallon d'Or.
Les élèves, quand ils arrivent au lycée, c'est sûr que la première journée, ça va. Mais quand on arrive vers la fin de la semaine, on sent qu'ils sont beaucoup plus fatigués. D'ailleurs, dans les queues, ils discutent moins. L'enseignant doit faire très attention à ça et forcément mettre des petits moments de pause. Accepter aussi qu'un enfant ne soit pas à 100% attentif lorsqu'on fait le cours. Quand on sait qu'il s'est levé à 3h du matin, il ne peut pas l'être 5 jours sur 5. Une très bonne surprise, beaucoup d'élèves qui passent le bac et habitent au Vallon d'Or font de l'effort de venir. Et ça rajoute encore plus de mérite à leurs futurs résultats. On pourrait se dire par continuité pédagogique, mais ils ont pris conscience que finalement, ce n'est pas l'obtention du bac qui est important. Ça va être Parcoursup et l'orientation qu'ils vont avoir l'année prochaine. Et l'année prochaine, pour certains qui vont faire des écoles ou aller à la fac, ils seront au même niveau que tout le monde. On ne dira pas il y a l'élève du Mont d'Or et il y a l'élève de la Pérouse. Ils seront au même niveau.
Notez tout de même que ce matin, le lycée du Mont d'Or a enregistré un taux de 50% d'absentéisme.
L'absentéisme qui est une véritable préoccupation. Avant cette période de vacances scolaires, de nombreux enfants n'avaient pas repris le chemin des cours, nous a confirmé ce matin Isabelle Champmoreau, vice-présidente du gouvernement en charge notamment de l'enseignement.
On a quand même de fortes inquiétudes parce que dans les collèges, on a à peu près 85% de nos élèves qui sont revenus. Beaucoup moins dans les lycées, on est autour de 60%, donc 40% d'élèves qui ne sont pas là. En plus, avec souvent des taux encore plus bas dans les lycées professionnels. Après, sur le primaire, les élèves sont jeunes, ils sont en proximité, donc ils reviennent plus facilement. Sur la province sud, on était à peu près, avant les vacances, à 78%. Sur les îles, 88%. Mais bon, on sait que les îles ont été peu touchées depuis le début, notamment par les dégradations. Donc, les élèves sont revenus plus facilement. Sur le nord, c'est très hétérogène. On a certaines écoles à 88%. Et puis, on a des écoles de la côte est sur Ponérioin, sur Wailou notamment, où on n'a quasiment pas d'élèves. Donc voilà, les taux sur la province sont un peu plus difficiles à connaître et à appréhender. Donc on voit quand même, après l'insurrection du mois de mai, tous les impacts néfastes et graves que ces violences continuent à avoir sur notre population scolaire.
Il existe donc un risque de décrochage scolaire très fort, des enfants qui ne reviennent pas en cours et les causes sont multiples.
On n'est pas resté inactif sur la question de l'absence de nos élèves. On a fait un état des lieux depuis la reprise. Mais là, on a créé un groupe de travail vraiment dédié entre le primaire et le secondaire pour analyser effectivement ces causes de non-retour. Donc il y a des choses très pratiques. Il y a encore la problématique du transport scolaire, notamment sur l'agglomération, parce qu'on voit que dans le nord, notamment sur la côte ouest, le transport scolaire a repris sur certaines communes. Donc sur l'agglomération, c'est encore très négatif pour ce point, malgré l'engagement de tous. On a aussi encore sur certaines communes des problématiques d'accès, puisqu'il subsiste encore des barrages, notamment sur la côte est, de personnes qui habitent sur la commune et qui empêchent les gens de circuler. Donc on a ces problématiques d'accès. Et puis il y a aussi, il ne faut pas se le cacher, encore des discours malheureusement idéologiques sur le fait de ne pas retourner à l'école. Et donc on a encore certaines familles qui ne ramènent pas leurs enfants dans l'institution scolaire.
Isabelle Champmoreau, vice-présidente du gouvernement en charge notamment de l'enseignement. Elle était ce matin notre invitée à 7h30. Vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site internet rrb.nc. La suite de ce journal à 11h40, c'est l'heure de retrouver la chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Noir.
Il faut laver son linge sale en famille, et les responsables de l'Union calédonienne l'ont bien compris. Ils ont choisi le huis clos pour leur comité directeur, qui se réunissait ce samedi à Vaud. Et pourtant, on aurait bien aimé savoir ce qu'ils se sont dit et quel est le bilan qu'ils font, 3 mois après le début de l'insurrection violente de la CCAT, qu'ils ont nourri en leur sein. Et l'on se pose au moins 2 questions. Y en a-t-il parmi eux qui condamnent ce déferlement de violence et ont-ils osé le dire face à leurs délégués? Et y en a-t-il parmi eux qui assument cette folie destructrice et ont-ils tenté de la justifier face aux membres du comité directeur? Et au-delà, comment voient-ils la suite? Envisage-t-il de se désolidariser de la CCAT en reconnaissant s'être laissé déborder par sa fureur? Ou vont-ils au contraire la consolider en estimant qu'ils n'ont plus le choix et qu'il est trop tard maintenant que le monstre leur a échappé? Et d'ailleurs, les élus UC contrôlent-ils quelque chose dans ce mouvement ultra-violent qui les menace directement en mettant en cause leur gouvernance et leur légitimité et en affirmant clairement qu'ils doivent être remplacés? Il devait y avoir une drôle d'ambiance à la tribu de Boyenne. Et si certains élus de premier plan avaient préféré ne pas faire le déplacement, il y avait tout de même plusieurs personnalités emblématiques qui, publiquement, n'adoptent pas les mêmes positions. Le tout nouveau député Emmanuel Tchibaou tient-il un discours aussi modéré quand il parle devant le comité directeur que lorsqu'il s'exprime dans les médias? Le globe-trotter Michael Forest s'est-il vanté des propos qu'il a tenus à Bakou et à Corté et s'est-il excusé de ses absences répétées du gouvernement? Et qu'a bien pu dire Mathias Chocha aux membres du comité directeur? A-t-il justifié la stratégie de la terre brûlée, dont certains le soupçonnent d'être l'inspirateur? Ou a-t-il pontifié façon professeur de droit public pour expliquer aux élus UC quelle devait être la suite institutionnelle de ce mouvement? Beaucoup de questions qui resteront sans réponse, mais on espère que ce huis clos aura aussi permis de trancher quelques positionnements qui jusque-là ne faisaient pas l'unanimité au sein de l'Union calédonienne. Sur le 24 septembre, qui de l'avis général est une date à risque, sur la reprise ou non des discussions politiques, sur le report ou non des élections provinciales, et avant cela, sur la tenue ou non du congrès du FLNKS. La CCAT, encore elle, a réclamé la réunion avant la fin du mois d'un congrès de l'ensemble de la mouvance indépendantiste. Il permettrait là aussi de laver le linge sale en famille, et les règlements de compte risquent d'y être violents. Mais est-ce le bon moment? Et faut-il impérativement répondre aux exigences de la cellule de coordination? Ce ne serait pas la première fois qu'un congrès du FLNKS est reporté. Le problème, c'est que les atermoiements de la mouvance indépendantiste risquent encore une fois de plomber toute avancée. Et on ne parle pas des discussions institutionnelles qui semblent prématurées, mais de la phase de reconstruction. L'État va-t-il, sans garantie, transférer des crédits importants à des institutions et à des collectivités gérées par des indépendantistes? Certains en doutent, et qui pourrait lui en vouloir? De toute façon, on n'en est pas là. Il faut attendre le vote de la loi de finances par le Parlement pour espérer une aide substantielle de l'État, et pour cela, il faut qu'il y ait un Premier ministre et un gouvernement soutenu par une majorité. La Nouvelle-Calédonie est, comme d'autres, tributaire de l'issue de la crise politique nationale. Avec un petit espoir, maintenant que les Jeux Olympiques de Paris sont terminés et que les vacances d'été tirent à leur fin, la métropole va peut-être se rappeler qu'il y a une crise en Nouvelle-Calédonie.
La chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Noir, vous la retrouvez comme chaque semaine sur notre site internet. Elle est aussi à réécouter à 16h, juste après notre flash cet après-midi. Cette information, avant de marquer une première pause dans ce journal, la mission du Forum des îles du Pacifique viendra en Nouvelle-Calédonie lorsque les conditions le permettront, en lien avec les autorités locales. C'est donc un report de la mission du Forum qui devait venir sur le territoire avant la fin du mois d'août. Ce report que nous vous annoncions hier matin a été rendu public dans un communiqué de l'Élysée publié à la suite d'un entretien téléphonique samedi entre Emmanuel Macron et le Premier ministre fidjien Sitiveni Rambuka. Ils ont évoqué la situation en Nouvelle-Calédonie avant le sommet du Forum des îles du Pacifique. L'occasion pour le président de la République de présenter les efforts déployés par l'État français pour promouvoir le dialogue, restaurer l'ordre public et contribuer à la reconstruction. Il est précisé que dans le cadre du dialogue entretenu entre le Forum et la France, l'État français se tient prêt à accueillir une mission d'information en Nouvelle-Calédonie lorsque les conditions le permettront en lien avec les autorités locales. Selon nos informations, l'Élysée a en réalité décidé d'attendre la réunion du forum du 26 au 30 août à Tonga pour évoquer l'éventualité de l'envoi de cette mission sur le territoire. 11h45, une première pause, la suite de l'actualité en Nouvelle-Calédonie. Dans un instant, notamment, l'autorisation à nouveau de vente d'alcool. On fera point avec Mickaël Juneski.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Si vous êtes prêt à faire plaisir à toute votre famille sur trois générations, alors vous êtes prêt à profiter des journées plaisir Gémeaux. Jusqu'au 23 août, moins 30% pour trois articles achetés, moins 40% pour quatre et jusqu'à moins 50% pour l'achat de cinq articles ou plus.
Gémeaux, taillé pour la vie de famille.
Offre valable sur une sélection d'articles textiles signalés par une étiquette rouge, voire conditions en magasin.
Ah, ces assurances, j'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple, fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixone à Magenta, à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixone, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
RRB, 11h, 13h, Infomag, Jean-François Bodin.
L'alcool est de nouveau autorisé à la vente et depuis 9h ce matin, Mickaël Juneski, les clients étaient très nombreux à se présenter devant les enseignes spécialisées ou les bottle shops.
La possibilité d'acheter de nouveau des boissons alcoolisées à emporter librement dans les espaces dédiés des grandes surfaces ou chez les cavistes. C'était évidemment très attendu de bon nombre de Calédoniens, comme en témoignent donc les files d'attente depuis ce matin devant les magasins.
Bah déjà, c'est un plaisir de retrouver le gérant, le personnel que j'adore, puisque je suis un fidèle. Puis en l'occurrence, ça va me dépanner pour 15 jours.
Bon, arrivé à mon âge, vous savez, j'étais en train de dire à la dame que j'étais devenu bête. On fait la queue comme tout le monde, c'est tout.
Il y a plus de monde dans le rayon alcool que dans le rayon légumes. Pourtant, le monsieur l'a bien dit, les poireaux sont pas chers.
Une forte affluence pour cette première matinée de réouverture de l'alcool et des employés qui doivent faire face à cette clientèle nombreuse, comme Rose, caissière dans un supermarché de la place.
Depuis ce matin, c'est la foule, c'est ça?
C'est ça. Ça va? Non, là ça va plus.
C'est quoi le plus compliqué?
C'est regarder le litrage, les pourcentages, le degré d'alcool et puis des clients qui ne sont pas contents.
Effectivement, un encadrement de la vente d'alcool reste en place. 2 litres d'alcool à moins de 22 degrés ou bien 1 litre d'alcool à plus de 22 degrés. Évidemment, lorsqu'on achète des formats à 33 centilitres ou 75 centilitres, cela peut vite devenir un casse-tête que les clients découvrent lors du passage en caisse.
Si j'ai bien compris les règles qu'on m'a rappelé tout à l'heure, c'est une bouteille de plus de 22 degrés ou 2 bouteilles de moins de 22. Ouais.
Une satisfaction tout de même, cette réouverture aujourd'hui des caves?
Non, mais satisfaction, sauf que je pense qu'en réalité, c'est un peu du tout ou rien brutalement, et qu'il aurait peut-être été plus raisonnable de constituer un fichier qui éviterait que les gens repassent 50 fois à la même caisse. Mais bon.
Les vendeurs s'emploient à expliquer les détails de cette réglementation assortie d'horaires spécifiques de 9h à 17h du lundi au jeudi, de 9h à midi le vendredi. Mais après ces longs mois d'interdiction et alors que le marché noir connaissait un essor sans précédent, cette réouverture pour la partie la plus modeste des Calédoniens est une bonne nouvelle. Elle l'est aussi pour les professionnels du secteur, comme nous l'a dit Pierre Riro, propriétaire du pavillon des vins.
Bah écoutez, on est content de redémarrer. Je pense que les clients sont contents de redémarrer aussi, de pouvoir retrouver leurs produits, de revenir dans un mode d'achat classique, où on peut acheter de l'alcool sans poser de problème à l'ordre public. On est très content aussi pour notre personnel parce que bon, c'était très compliqué pour eux, ces longues semaines de fermeture. Et puis pour toute la profession, nous on est des petits commerçants, donc on était très impactés puisque c'est notre seule activité. Plus de 6 semaines d'arrêt, ça a été très compliqué à gérer. On avait, nous, eu des entretiens avec le commissariat pour pouvoir réouvrir nos commerces en proposant des conditions restrictives. Voilà, bon, donc ça a été des restrictions horaires et quantitatives. On s'y adapte et je crois qu'on va faire en sorte que ça se passe bien.
On rappelle que le Haut Commissariat avait prévenu qu'en cas d'abus, cette mesure administrative pourrait être revue à tout moment. Elle est prévue pour l'instant jusqu'au 8 septembre.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est donc l'heure de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici la question du jour. Approuvez-vous la décision d'autoriser la vente d'alcool à emporter sous certaines conditions à partir de ce 19 août? Si vous l'approuvez, vous tapez 1. Si vous ne l'approuvez pas, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 3146. Le reste de l'actualité en Nouvelle-Calédonie est le dispositif de navette maritime entre Nouméa et le Mont d'Orsud est renforcé depuis ce matin, Isabelle Pelletier.
Oui, un dispositif renforcé avec des rotations supplémentaires des deux gros navires déjà engagés, le Maridé et le Coral Palme. Les habitants du Mont d'Or, bloqués par le verrou de la RP1, disposent ainsi de près de 220 places supplémentaires et d'une plus grande amplitude pour effectuer leurs heures de travail. Olivier Berthelot est le 5e adjoint au maire du Mont d'Or et habitant de Mont d'Orsud.
Désormais, les deux gros bateaux que sont le Coral Palme et le Maridé arrivent quasiment synchronisés à 5h45 du matin, alors que précédemment, l'une des unités arrivait à 6h20 et l'autre à 7h. Donc, un départ plus tôt pour les Mondoriens du Sud, qui leur permet de faire un peu plus d'heures de travail dans la journée. Et puis, avec des retours, dernier retour de départ Nouméa à 17h30, donc on va dans le sens où les salariés du Mont d'Or Sud vont pouvoir progressivement, pas tout à fait encore, mais faire leur journée de travail complète et donc ne pas avoir de perte de salaire à la fin du mois. Donc c'est vraiment ce qu'il faut retenir. Et les rotations supplémentaires permettent de véhiculer davantage de passagers également. Donc en fait, ce sont des avancées significatives qui restent, je pense, encore insuffisantes, mais on va dans le bon sens.
Un prestataire supplémentaire pourrait encore venir ajouter 30 places à ces rotations dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Des discussions sont aussi en cours pour bénéficier des services d'un autre bateau de près d'une centaine de places. Enfin, des départs plus tardifs de Port-Moselle sont à l'étude. À noter que les rotations des gros navires sont moins susceptibles d'être annulées en cas de forte houle. Rappelons aussi que l'État s'était engagé à soutenir financièrement la province sud et la commune du Mont d'Or pour le transport de personnes et de fret entre Port-Moselle et le Vallon d'Or.
Lagoon, victime d'une cyberattaque, une attaque par rançongiciel qui est survenue dans la nuit de samedi à dimanche. Un virus demande une rançon pour restituer de nouveau l'accès aux données. Lagoon indique prendre cette situation très au sérieux. Écoutez Stéphane Matteo, il est le directeur général du fournisseur d'accès à Internet.
Une attaque préparée de longue haleine et très bien ciblée sur des points stratégiques de notre infra. Ils ont pris accès, crypté les données, changé les accès et demande une rançon pour pouvoir déchiffrer tout notre environnement. À ce stade, je n'ai pas d'informations sur des données perdues. Depuis, nous, on a lancé une cellule de crise avec une entreprise locale privée et les organismes territoriaux et nationaux. Donc on travaille avec l'ANSSI, la cellule Cybersécurité France et Nouvelle-Calédonie. C'est une attaque d'ampleur et qui est prise au sérieux, oui, par tous ces organismes. Nos services sont interrompus, inaccessibles, les services hébergés par Lagoon. Nous sommes victimes donc de cette attaque, mais il y a aussi des dommages collatéraux avec des clients hébergés. Là-dessus, nous sommes en train d'évaluer aussi les dégâts financiers.
Stéphane Matteo, directeur général de Lagoon. Et si vous avez des questions ou des préoccupations, vous pouvez contacter Lagoon par mail à l'adresse suivante contact@ofratel.net. contact@ofratel.net. Il est 11h et bientôt 54 minutes. Dans un instant, l'actualité en métropole dominée par un seul titre, la disparition d'Alain Delon.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin. Savez-vous que si vous êtes équipé d'un chauffe-eau électrique, vous pouvez couper son alimentation si vous vous absentez plus de 24 heures afin de supprimer la consommation due au maintien de la température?
Retrouvez toutes les astuces éco-conso sur le site EEC. Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Du lundi au vendredi sur Radio Rythme Bleu, RRB raconte une histoire aux tout petits vers 19h20.
Raconte-moi une histoire avec Petit Dom, la boutique des tout petits. Petit Dom, c'est aussi et toujours les listes de naissance, de Noël, de baptême et d'anniversaire accessibles sur Internet. Chez Petit Dom, on n'hésite plus, on y va.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
La suite d'Infomag, on retrouve Jean-François Bodin.
Il incarnait la beauté, l'audace et tout ce que le cinéma français avait de meilleur. Il était aussi probablement la dernière star, le dernier monstre sacré de cet âge d'or du cinéma français qui rayonnait sur toute la planète. Alain Delon s'est donc éteint à l'âge de 88 ans, à Doucy dans le Loiret où il s'était retiré. Il est impossible de résumer la carrière de ce géant, 90 films dont la plupart ont marqué l'histoire, même si Alain Delon avait eu avec le 7e art des relations parfois difficiles lors d'Autriche pour Europe 1.
Alain Delon, inoubliable, Tancrède du Guépard de Visconti aux côtés de Claudia Cardinal, puis la piscine en 68 avec Romy Schneider, une ascension fulgurante, une beauté arrogante. En 1985, il raconte sur Europe 1 qu'il n'imagine pas être acteur jusqu'à la fin de sa vie.
Je ne m'imagine pas dans un fauteuil sur un plateau avec mon nom derrière en train d'attendre « C'est prêt, monsieur Delon, quand vous voulez ». Je ne me vois pas très bien. Je crois que le jour où je tomberai dans la routine, j'abandonnerai pour sortir justement de cette routine.
À partir des années 70, Alain Delon devient aussi producteur. Il produit une trentaine de films, de Jeff Borsalino à Deux hommes dans la ville. Il développe aussi un aspect de son personnage, très souvent habillé d'un imperméable et d'un chapeau. Il fait quelques mauvais choix et quelques mauvais films dans les années 80, s'enferme dans des rôles stéréotypés jusqu'à s'isoler. Le monde du cinéma le fuit et lorsqu'il reçoit un César en 85, il prononce quelques mots avec aigreur.
Ce César est arrivé, mais pour moi, il est arrivé un peu tard. J'estime l'avoir mérité avant. Donc, ça n'est pas pour moi, si tu veux, un critère d'amour ou de reconnaissance de la profession, non.
Et pourtant, d'autres récompenses, il va en recevoir. Récompense en 95 à Berlin pour l'ensemble de sa carrière et une palme d'or à Cannes en 2019.
J'espère que je ne vous ai pas trop déçus, mesdames. Mais j'ai jamais pleuré comme ça devant les femmes. Ce soir, c'est un peu un hommage posthume, mais de mon vivant. Avant de partir, je voudrais simplement vous dire que je pense à Mireille et à Romy.
Mireille Darc et Romy Schneider, deux de ses partenaires légendaires et deux amours de sa vie.
Alain Delon avait acquis une incroyable stature. C'est pourtant quelqu'un qui partait de loin, a rappelé le réalisateur Philippe Labro.
Alain a développé un goût très très fort et une connaissance très forte de la sculpture, de la peinture, des beaux objets. Cet homme qui était parti de nulle part, en effet, avec une petite enfance très très malheureuse, abandonné, passant de pension en pension pour se retrouver un jour à 17 ans en Indochine pour faire la guerre. Cet homme a acquis, en partie grâce au conseil de Visconti et de quelques autres, une connaissance, une culture, une diversité, une intelligence des choses qui m'a toujours, non pas surpris, mais épaté, ébloui.
Et de nombreuses personnalités rendent hommage à Alain Delon, du chef de l'État Emmanuel Macron à l'ancien ministre de la Culture, Jack Lang, en passant par Marine Le Pen. Et signe de son incroyable popularité et célébrité, la presse britannique lui consacre aussi la plupart de ses unes.
Sarah merveilleux et magnifique, Alain Delon était pour The Guardian le symbole de la beauté perdue des années 60. Il était l'une des stars les plus mystérieuses, écrit aujourd'hui l'éditorialiste du journal Peter Bradshaw. La BBC évoque un géant qui fut le plus bel homme du cinéma français. Alain Delon était même le Frank Sinatra français pour le tabloïd The Sun. Et oui, Delon au Royaume-Uni, c'est aussi une référence au monde musical. Il y a cette photo extrêmement célèbre de l'acteur assis aux côtés de Marianne Faithfull avec un Alain Delon séducteur qui semble shipper la vedette aux compagnons de l'époque de la chanteuse, un certain Mick Jagger. Et puis en musique, toujours sur les réseaux sociaux, les internautes britanniques lui rendent eux aussi hommage en publiant notamment la pochette du troisième album des Smiths. En 1986, le groupe de rock anglais avait choisi d'illustrer The Queen is Dead par une photo d'Alain Delon dans L'Insoumis. Alors aujourd'hui, au Royaume-Uni, eh bien on pleure aussi la mort d'un king.
Les Britanniques n'oublient pas Alain Delon. Les Italiens non plus, évidemment. Ils n'oublient pas celui qui avait tourné notamment avec Visconti et connaissent tous ses films.
Ne riez pas, mais c'est Zorro. Zorro est d'autant plus intrigant et sensuel quand on sait que c'est lui derrière le masque.
Je les ai tous vus, les films d'Alain Delon. Il a été au niveau de notre acteur italien, le mythique Mastroianni. C'était deux acteurs sex-symboles, l'un italien, l'autre français.
Il a certainement fait l'histoire du cinéma, non seulement en France, mais partout. J'ai adoré Le Guépard et ses débuts en Italie avec Rocco et ses frères.
Alain Delon était souvent décrit comme quelqu'un de froid, de distant. Il avait un rapport compliqué avec les autres et avec la vie. Dans une émission de Frédéric Taddeï sur Europe 1 en 2011, celui qui avait réussi une carrière pourtant exceptionnelle avouait ne pas croire au bonheur.
Vous avez envie de raconter votre vie ?
J'ai envie de raconter mes premiers 23 ans, comme je vous l'ai dit, et ma vie après, à l'intérieur du métier que je fais, dans le monde, pour ces enfants qui ne savent pas ce que je suis, pour ces enfants qui ne savent pas d'où je viens, ce que j'ai fait, ce que je fais. Et là, ben, moi, il n'y a pas d'essentiel, parce que l'essentiel, c'est d'essayer de vivre heureux et d'être heureux. Et je crois que c'est la chose la plus difficile, c'est trouver le bonheur, parce qu'on ne peut pas tout avoir. C'est très, très difficile de tout avoir. Alors, il faut se contenter de ce qu'on a, et c'est peut-être ça l'essentiel, mon essentiel.
Et le bonheur, justement, c'est un mot qui paraît toujours bizarre quand on l'entend dans votre bouche, parce qu'on a l'impression que le bonheur, c'est quelque chose qui vous est étranger.
Ça n'existe pas. Je pense qu'il y a des instants de bonheur dans la vie, des moments de bonheur. Il faut en profiter quand on les a, à tous les âges, d'ailleurs. Mais le vrai bonheur, le bonheur permanent, il y en a peut-être qui le connaissent, je ne sais pas, ils sont peut-être différents de moi, ils font peut-être autre chose aussi, peut-être que, je ne sais pas, dans leur domaine ou leur métier, ils sont heureux. Mais moi, je pense que le bonheur n'existe pas.
Extrait d'une émission sur Europe 1 en 2011, les obsèques d'Alain Delon seront célébrées dans l'intimité familiale. Le monde du cinéma devrait lui rendre hommage au mois de septembre. Il est midi, c'est la fin de ce journal.